19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. On s'en souvient, dans les années 1920, une expédition archéologique exhuma la sépulture du pharaon Khatobek. Désormais exhibée dans un musée, la momie revient alors à la vie pour mieux châtier les archéologues ayant outragé son sépulcre. Paru sur les écrans en 1967, ce film a pour titre « Dans les griffes de la momie ». On doit aux momies et à leur reproduction cinématographique quelques nanars, mais aussi de beaux titres tels que « La malédiction de la momie »,« La tombe de la momie »,« Les maléfices de la momie »,« Le fantôme de la momie »,« Le baiser de la momie »,« Les yeux de la momie », dont Lubitsch fut l'auteur en 1918, mais aussi « La main de la momie », »,« Le roman de la momie », »,« La momie sanglante », enfin plus original, « La vengeance du zombie ». Momie Momie sera ce soir au cœur du magazine d'archéologie de France Culture. Les momies que Gérard de Nerval, dans son voyage en Orient, percevait comme de vraies chrysalides humaines dont le papillon n'est pas encore sorti. Qui nous dit qu'il n'éclose pas quelques jours? C'est avec la complicité et le concours d'un de nos partenaires, la revue Archéologia, que nous nous penchons sur un tour du monde des momies avec Alain Froment. Bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en médecine et en anthropologie biologique, directeur de recherche à l'IRD et spécialiste de la diversité humaine. Alain Froment, vous avez été directeur des collections d'anthropologie du Musée de l'Homme. Alain Froment, qu'est-ce qu'une momie? Une sorte d'être à la frontière des choses?
Une chose humaine, diraient les juristes, c'est un cadavre, hein, tout simplement, mais un cadavre qui miraculeusement a traversé les siècles, les millénaires, et qui nous restitue une petite capsule temporelle, héritage des populations du passé, puisque notre destin sous la terre, c'est de devenir un squelette. Et quand on n'est pas un squelette, quand il reste de la chair, alors on est une momie.
La momie est aussi une chrysalide humaine, pour reprendre Gérard de Nerval. N'est-ce pas avant tout une personne qui possède toujours son identité?
Elle possède d'autant plus son identité qu'elle a gardé de la chair. Tout reste humain a une identité, parfois cachée, mais quand vous êtes face à un métacarpien, c'est un peu abstrait. Quand vous êtes devant un crâne, ça parle un peu plus, mais quand vous êtes devant un corps qui est conservé ou semi-conservé, alors oui, vous avez une perception très aiguë de son identité et bien sûr de son humanité.
Deux types de momies existeraient à la surface de la Terre, l'une le fruit de la nature, l'autre le fruit de l'homme?
Oui, il y a ce qu'on appelle des momies naturelles. Pour se conserver, en fait, il faut être déshydraté. Donc, que ce soit par le froid, par le chaud, par le sel, il y a des cadavres qui, comme ça, au fruit de leur enfouissement, se retrouvent desséchés, notamment dans les zones arides ou dans les zones polaires, ou bien le fameux cadavre Otzi, l'homme des glaces qu'on a retrouvé dans les Alpes. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des momies naturelles. Elles sont conservées par hasard. Et puis, il y a les momies artificielles, où là, il y a eu un soin funéraire, une volonté de conserver le corps, donc de le traiter pour ralentir sa décomposition.
Évoquons ces étonnantes momies d'abord naturelles. Les animaux gelés de Sibérie sont-ils des momies?
Pourquoi pas, oui, les mammouths, les rhinocéros, on trouve là avec la décongélation du permafrost un certain nombre de spécimens très bien conservés, donc c'est du ressort de la momie naturelle.
Dans les grands froids, il nous faut aussi parler de cette extraordinaire découverte groenlandaise faite dans les années 80, toute une famille inuite.
Oui, très émouvante, hein, des corps absolument intacts avec leur habillement et puis bien sûr leur ADN qui a été complètement séquencé.
Il n'y a pas que le froid, le chaud aussi conserve les chairs. C'est par exemple le cas dans le désert du Taklamakan en Chine occidentale.
Oui, on a des momies en Asie centrale ou bien dans l'Atacama, le désert du Chili, où là, il y a aussi des indices quand même de traitement du corps, mais également en Égypte et dans les zones les plus arides et les périodes les plus anciennes de l'Égypte, donc au prédynastique, on pensait que les corps étaient tout simplement desséchés. On sait maintenant qu'un certain nombre de cadavres, dont un exposé au musée de Turin, un autre au British Museum, sont en fait des momies, c'est-à-dire qu'il y a eu un traitement qui a favorisé la conservation. Ce ne sont pas seulement des corps cuits, desséchés dans le sable.
À Dontek-Lamakan, c'était une belle découverte. J'ai souvenir qu'il y avait encore les nattes tressées des individus.
C'est très émouvant à chaque fois qu'on met à jour des momies parce que effectivement elles nous renvoient une image du passé qui est tellement immédiate, tellement présente. Et c'est ce qui fait la fascination du public pour les momies, plus que pour les squelettes.
Il y a aussi les momies peu connues au Yémen, et là vous étiez sur le terrain.
Oui, j'ai eu l'occasion de faire une mission au Yémen et de voir au musée de Sanaa une douzaine de corps cousus dans des peaux de dromadaires ou de bœufs, dont la datation est environ 2000 ans, plus ou moins 500 ans, en tout cas qui sont pré-islamiques, que le musée de Sanaa avait du mal à conserver. Et bien sûr, maintenant, avec le chaos de la situation au Yémen, on n'a pas pu aller plus loin, mais il y aurait toute une étude à faire. Alors, ce sont essentiellement des momies naturelles, là. On n'a pas eu la possibilité, les étudier en détail non plus. On n'a pas pu faire de scanner, mais apparemment, ce sont surtout des corps desséchés. Mais ce serait quand même intéressant de voir s'il n'y a pas eu des tentatives de conservation. Et une des plus classiques, c'est l'éviscération. C'est-à-dire qu'on enlève les intestins, qui sont l'organe qui est le plus susceptible de pourrir, en fait, en nous.
Alors, on en a parlé aussi il y a peu, les Nabatéens ont aussi visiblement pratiqué aussi des sortes de momies de la sorte.
Oui, c'est une pratique qui est répandue un peu partout dans le monde. En fait, les gens ont pris conscience qu'effectivement, un certain nombre d'organes se décomposaient plus vite et que rien qu'en les enlevant, ça permettait déjà de prolonger la conservation. Après, il y a les traitements de déshydratation. Donc, en Égypte, on utilisait une espèce de sel là, qui s'appelle le natron. Ailleurs, c'était d'autres techniques avec du sable, etc. Mais toujours avec cette volonté de déshydrater. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on fait des études radiologiques, notamment les IRM, donc la résonance magnétique, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour donner des images suffisamment contrastées. Par contre, le scanner radiologique marche très bien.
Au Yémen, vous étiez allé sur le terrain faire un peu des prospections pour essayer de trouver ces momies. Elles sont dans quel cadre en général d'ailleurs ?
Oui, alors celles qui étaient rassemblées au musée de Sanaa venaient de grottes sépulcrales et on a pu en visiter une dans un village à peu près 100 km de la capitale. Et ce sont donc des corps qui ont été déposés là avec quelques rituels et qui se sont desséchés naturellement.
Le dernier milieu tout aussi extraordinaire est bien sûr les tourbières avec les fameux hommes des tourbières, notamment au Danemark, l'homme de Tolund et l'homme de Grobaleu dans le Jutland.
Oui, donc ça, ce sont des corps de l'âge du fer. Donc ici, ce serait l'époque gauloise. En Scandinavie, on trouve comme ça dans ces tourbières qui sont des milieux où il n'y a pas d'oxygène. Donc le corps peut se conserver. Par contre, ce sont des milieux acides et en général, le squelette est complètement dissous. Donc ce sont des corps très mous, parfois très plats, mais où on distingue encore très bien les traits du visage, hommes et femmes d'ailleurs, et souvent dans un contexte très dramatique, apparemment ce sont des gens qu'on a tués, soit pendus, soit dont on a écrasé la tête, en tout cas apparemment ce sont des gens exécutés et donc dont le corps a été abandonné ou enfoui dans la tourbière, ce qui n'est pas le cas des sépultures de la même époque et de la même région.
Ils ont même été en général tués de diverses manières, pendus, ayant mangé des sortes d'aliments invraisemblables.
Oui, puisque le corps étant bien conservé, on a pu mener un certain nombre d'analyses, y compris du contenu gastrique. Donc on voit que là, c'est un contexte très particulier et donc apparemment des exécutions capitales.
Alors j'ai vu, moi, l'homme de Grobaleu au musée de Russe, dans le Jutland. C'est une sorte d'homme chaussette. On a l'impression que la nature l'a totalement équarri.
Oui, il est aplati. Hein, et il n'y a plus de squelette, mais par contre la peau, les téguments, les cheveux sont bien conservés.
On en a aussi en Angleterre, dans les années 1980, on en a découvert un, c'est le fameux homme de Lindow, qui est présenté d'ailleurs au British Museum. On n'a absolument pas ce genre de momie en France.
Non, les tourbières ont été exploitées dans quelques zones, mais on n'a pas trouvé ça. Donc c'est sûrement un fait de civilisation qui est propre aux pays nordiques.
Est-ce qu'il faut évoquer dans ces momies naturelles aussi des choses assez récentes, comme par exemple les fameuses momies italiennes ?
Oui, bien sûr. Alors, dans les catacombes des églises en Sicile, à Palerme, il y en a des milliers, et on en trouve un peu partout, en fait, en Europe, dans les églises. Donc là, ce sont des momies qui parfois ont appartenu à l'aristocratie, donc qui avaient ce souci d'être préservées, mais il s'agit aussi de dessiccations naturelles, et elles sont conservées dans leur habillement d'origine. Donc c'est à partir du 17e, mais avec un pic au 19e siècle. Toutes ne sont pas très anciennes et bien sûr, c'est très spectaculaire.
Évoquons Alain Froment les momies artificielles. L'Égypte n'est pas le pays où cette pratique est la plus ancienne ?
Non, les plus anciennes momies qui ont plus de 7000 ans, c'est au Chili, une culture qui s'appelle la culture Chinchorro, avec plusieurs phases. Et ce sont des momies assez curieuses parce que il n'y a pas beaucoup de chair. En fait, les membres sont souvent remplacés par des morceaux de bois. Les visages sont surmodelés avec de l'argile. Et selon les périodes, c'est pas peint de la même façon. Mais néanmoins, ce sont bel et bien des cadavres et qui ont été traités pour être conservés pour longtemps.
Ils sont dans quel contexte ? Alors, grottes, là aussi ?
Enfouis en général, non pas dans les grottes, mais souvent enterrés, et dans ce contexte aride qui a permis aussi de favoriser leur conservation.
Les momies artificielles sont le fruit de pratiques thanatopraxiques. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire l'embaumement, ça veut dire tout ce qu'on pratique actuellement sur les cadavres quand on veut les présenter de façon décente à la famille. C'est un métier, la thanatopraxie. Donc, ça consiste à traiter le cadavre pour sa conservation. On peut, de nos jours, injecter des liquides, du formol ou d'autres substances. Il y a, en fait, des pratiques de plus en plus sophistiquées qui rendent le cadavre presque vivant, en fait, tellement il est bien conservé.
Les plus vieilles momies artificielles, vous le disiez à l'instant, datent d'environ 7000 ans et seraient donc américaines. Il y en aurait aussi en Libye, dans le massif de la Kekous.
Alors on a trouvé un enfant, qui a plus de 5000 ans et qui est assez bien conservé, donc les téguments sont présents et il porte une entaille à l'abdomen qui évoque le fait qu'on lui ait également retiré ses intestins. Et pour l'Afrique, c'est un des cas les plus anciens.
L'embaumement semble universel, pour finir.
Oui, d'ailleurs, embaumer, ça veut dire mettre des baumes, c'est-à-dire des conservateurs, des résines. Les peuples du monde entier ont rivalisé d'inventivité pour trouver, dans leur contexte écologique, les substances appropriées.
En Égypte, on embaume tout, le chat, le crocodile, l'ibis ?
Oui, bien sûr, il y a toute une faune, et y compris les bœufs. Il y a des momies d'Apis qui sont énormes. Et un article récent évoquait le fait que les Égyptiens auraient spécifiquement chassé les crocodiles pour les embaumer.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Alain Froment, toutes ces momies égyptiennes ont été sorties par milliers, peut-être même par millions. Certaines ont été même exportées en Angleterre pour faire des phosphates.
Oui, alors il s'agit surtout de momies animales quand même. On en a même brûlé dans des locomotives en Amérique du Sud. Et la poudre de momie, depuis des siècles, avait des vertus. On dit que le roi François Ier ne se séparait jamais d'un petit sac de poudre de momie, donc mumia, qui veut dire aussi asphalte, goudron, puisque les peuples du Moyen-Orient connaissaient le bitume et voyaient que la couleur noirâtre des momies évoquait le bitume. Et donc, dans les textes anciens, c'est d'ailleurs difficile de savoir dans les médicaments, la pharmacopée de l'époque, ce qui est vraiment poudre de momie ou ce qui est simplement goudron. Néanmoins, cette vertu associée à la momification était certainement chargée de sens, chargée de symboles, mais le fait que les Égyptiens aient beaucoup momifié des animaux a fait qu'on a des quantités effectivement phénoménales de restes momifiés.
Et quelquefois très mal momifiés.
C'est un processus coûteux, la momification. Donc, c'était réservé à une élite. La plupart des milliers de restes humains qu'on trouve en Égypte sont des squelettes, en fait. Ce sont pas du tout des momies. Il y a des immenses nécropoles où il n'y a que des squelettes. Donc ça, c'est pour la plèbe, c'est pour le peuple. À l'autre extrémité, pour les pharaons, on a des technologies de conservation très raffinées, avec une période de 70 jours pour mener à bien tout le processus. Et effectivement, on voit là les momies royales qui sont parfaitement intactes, avec parfois d'ailleurs des signes de maladie ou des signes de traumatisme, voire des signes d'assassinat. Donc les égyptologues se régalent de pouvoir avoir accès comme ça aux cadavres des momies royales. Mais on a aussi des momies relativement mal conservées, donc semi-décomposées, et parfois des fausses momies. Les commerçants de l'époque ont, pour les pèlerinages, vendu à des naïfs des enveloppes, et quand on fait le scanner ou la radiologie de ces enveloppes, on trouve rien à l'intérieur, ou bien des débris qui n'ont rien à voir avec ce qui est censé être présenté extérieurement.
Il y en a aussi à Nazca, en Amérique.
Alors à Nazca, on s'est régalé, oui, avec une espèce d'escroquerie. Il y a des momies naturelles et des momies artificielles, évidemment, en Amérique du Sud et au Chili. Moi, j'avais eu à expertiser effectivement un certain nombre de découvertes. D'une part, une momie d'adulte authentique, d'ailleurs datée au radiocarbone du XIIe siècle environ, avec un crâne déformé tel qu'on en connaît dans les cultures précolombiennes. Mais cette momie avait été mutilée. Donc les oreilles avaient été coupées, les doigts avaient été disséqués entre les métacarpiens, en fait, pour faire croire que les doigts étaient beaucoup plus longs, et on avait coupé le pouce et le petit doigt pour faire croire que c'était des momies tridactyles, donc aux mains et aux pieds d'ailleurs, et puis elles étaient enrobées dans une espèce de substance siliceuse. Donc tout ça pour faire croire à des extraterrestres. Et par ailleurs, il y avait des petites momies qui faisaient 40 à 50 centimètres de long et qui étaient remplies d'os animaux qui n'avaient aucune connexion anatomique, aucune logique. Donc on est là aussi en présence de faux qui, évidemment, ont créé le buzz et qui ont mis en avant un certain nombre d'aventuriers.
En Égypte, cette pratique serait plus ancienne que l'on ne le pensait auparavant ?
En Égypte, on associe la momification avec l'époque pharaonique classique, surtout les premières dynasties de l'ancien empire, et puis bien sûr la 18e dynastie, Ramsès II, etc. Ça, c'est le triomphe de la momification. Mais à l'époque prédynastique, est encore donc la préhistoire égyptienne, le néolithique, on peut dire, ou l'âge du bronze, on avait un certain nombre de cadavres dont on pensait qu'ils étaient simplement desséchés, donc il s'agissait de momies naturelles. Et une chercheuse australienne que j'ai eu l'occasion de côtoyer sur le terrain, qui s'appelle Jana Jones, a mis en évidence, parce que ces corps sont assez bien conservés et il y a des textiles tout autour, a mis en évidence dans les textiles des baumes, des résines qui ont des propriétés antibactériennes, antiseptiques, et qui prouvent que donc même à l'époque prédynastique, il y a déjà une volonté de conserver le cadavre.
Est-ce que l'Égypte a mis en place la momification la plus sophistiquée que l'on est au monde ou pas?
Pas forcément.
L'Égypte, c'est très mise en avant autour des momies.
Oui, l'Égypte est emblématique, surtout avec le nombre et avec le souci dans la religion égyptienne de donner aux cadavres une vie dans l'au-delà qui soit la plus proche possible de la vie sur la terre. Et donc, les offrandes, bien sûr, et une conservation du cadavre la meilleure possible. Mais on connaît notamment en Chine, en Corée, dans des époques plus récentes, des momies qui sont parfaitement conservées, où tous les organes sont étudiables.
Les momies, on les fume, on les cuit à la vapeur ?
Alors oui, ça sont des pratiques qui sont plus de l'ordre des cultures du Pacifique. Donc en Polynésie, on connaît bien les têtes maoris, puisqu'elles ont fait l'objet d'ailleurs de restitutions et surtout d'une chasse. Les amateurs de choses bizarres ont noué avec les Maoris au XIXe siècle des relations commerciales pour récupérer donc des têtes coupées qui étaient soit celles de leurs ancêtres, soit celles de leurs ennemis, qui avaient le bénéfice pour l'amateur d'art d'être tatoué, donc pas des simples têtes coupées. Et donc ces momies-là, elles étaient souvent cuites à la vapeur ou conservées avec du sable chaud.
La méthode paki-paki, c'est ça ?
Voilà. Et puis, on connaît alors d'autres cas assez spectaculaires. Alors, cette fois-ci en Mélanésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où on a des cadavres de chefs qui sont fumés et qui sont assis sur une chaise et qui sont donc conservés comme on conserverait de la viande.
Quelle information peut nous livrer les études sur les momies?
Pour la médecine, les momies, c'est véritablement un trésor. D'abord, elles ont bénéficié des progrès de la médecine, que ce soit pour l'imagerie, les scanners, tout ce qui est trois dimensions. Ça permet d'ailleurs d'éviter les autopsies de momies maintenant. On préfère les disséquer virtuellement que de les détruire en les disséquant anatomiquement. Donc, toutes les techniques d'imagerie médicale nous ont révélé un trésor, évidemment, de tout ce qui peut être à l'intérieur. Et puis, tout ce qu'on appelle examen invasif, tout ce qui est analyse, que ce soit pour les isotopes, pour la parasitologie, enfin tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut faire sur un cadavre qui est plus ou moins bien conservé. Donc ça, c'est les progrès de la médecine qui ont permis de faire ces avancées. Et inversement, les momies ont servi la médecine puisqu'elles nous donnent une fenêtre sur l'origine et l'évolution des maladies. Donc on a comme ça ces capsule de temps dont je parlais tout à l'heure, qui nous livre des informations sur la biologie des peuples disparus. Par exemple, pour ce qui est de l'homme des glaces, donc Ötzi, on a pu extraire de son estomac non seulement tout ce qu'il avait mangé, mais également une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, qui est une bactérie assez intéressante, qui a valu un prix Nobel récent, parce que c'est une bactérie qui est associée à l'ulcère de l'estomac. Maintenant, on traite les ulcères aux antibiotiques. Et puis, cette bactérie peut être cancérogène, c'est-à-dire que le cancer de l'estomac peut être lié aux lésions induites par cette bactérie. Eh bien, on a isolé chez Ötzi une bactérie qui a donc plus de 5000 ans et dont on a pu faire la typologie par rapport aux familles d'hélicobactères qu'on connaît en Europe et en Asie.
Alors justement, Ötzi, l'homme des glaces, a été une sorte de vraie révolution.
Il a été un des plus étudiés de tous ces cadavres parce qu'effectivement, étant congelé, il avait conservé énormément de caractère, notamment sa peau avec des tatouages. Sa blessure, la blessure mortelle, donc qui est apparemment une flèche qui l'a touché dans le dos et qui a érodé une artère, l'artère sous-clavière, donc qui a causé une hémorragie dont il n'est pas mort tout de suite. Et puis bien sûr, son vêtement, son outillage, enfin, on a là un homme du néolithique, enfin, ou de l'âge du cuivre, hein, plus précisément, qui est catapulté parmi nous.
Ötzi est bien sûr italien maintenant. Est-ce qu'en France, on aurait des momies, nous aussi?
On a au Musée de l'Homme une momie qui est réputée d'origine gauloise, curieusement, et elle n'est pas étudiée pour le moment. Nous nous réservons son étude. Bon, il faut un budget qu'on n'a pas encore. Et c'est un des plus anciens objets, si on peut parler d'objets en matière de momie, présent au Jardin des Plantes, dans les collections du Jardin des Plantes, en fait, depuis le XVIIe siècle. On a également une main...
Elle vient d'où, cette momie?
Elle vient d'un site du Massif Central, où apparemment il s'agissait d'une sépulture dans une nécropole gallo-romaine. On n'a pas beaucoup de textes associés à cet objet qui est donc là depuis des siècles. Et apparemment, cet enfant était inhumé dans un cercueil en plomb. Et ça facilite, les sels de plomb facilitent la conservation. C'est pour ça que souvent on a des momies, donc on est plutôt dans le registre des momies semi-naturelles, conservées par le hasard de l'inhumation, mais avec un traitement, comme on a Louise de Kango en Bretagne, donc qui est plus récente, qui est...
1656.
Voilà, qui était également dans un cercueil de plomb, donc, et qui avait été partiellement éviscéré, puisque c'était une tradition qui incluait même les rois de France, puisqu'on prélevait le cœur, on mettait ça dans tel endroit, dans telle abbaye, dans tel vase, on dispersait un petit peu les entrailles royales aux quatre coins du royaume. Et donc, ce sont des traditions également d'embaumement, mais qui sont encore plus valorisées quand le contenant, donc le cercueil, est favorable à la conservation.
Et le plomb est très favorable à cette conservation?
Le plomb, le mercure aussi, oui, un certain nombre de minéraux lourds sont favorables.
Le mercure, on a des exemples de momies au mercure?
Oui, en Chine, justement, une des momies les mieux conservées, qu'on appelle la princesse de Dai, avait du mercure. On ne sait pas si le mercure a été mis volontairement comme liquide de vie ou pour d'autres raisons, mais en tout cas, ça a certainement aidé à sa conservation.
Et puis au passage, on rappellera que dans la tombe du premier empereur, Xi Wangti, il y a bien sûr du mercure. On embaume encore de nos jours, notamment aux États-Unis?
Alors déjà, on embaume tous les grands chefs des républiques populaires. Et on a Lénine. Bien sûr Lénine, on a les leaders coréens, etc. Oui, ça se fait. Et puis, pour une bonne poignée de dollars, vous pouvez vous faire embaumer, bien sûr, par ces pratiques de thanatopraxie.
Alors, il nous faut aussi évoquer un cas tout à fait exceptionnel, une expérimentation archéologique sur un chauffeur de taxi londonien, bien sûr, qui était volontaire.
Alors ça, oui, c'est une histoire intéressante. Ce brave homme qui aimait la science a donc légué son corps à la médecine, selon la tradition. Et en général, quand on fait ça, on est disséqué par les étudiants en médecine. Moi, ça m'est arrivé au cours de mes études. Ou bien, on sert pour des expérimentations. À une certaine époque, bon, maintenant, l'éthique l'interdit, mais on mettait des cadavres dans les voitures qu'on fracassait contre des murs pour étudier les lésions. Donc, un certain nombre de gens qui donnaient leur corps à la science finissait comme ça dans ces circonstances assez tragiques. Et ce monsieur, lui, a dit « Je voudrais effectivement participer à une expérimentation et donc me faire momifier avec l'instrumentation et les techniques de l'époque. » Donc c'est ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. On essaye de refaire, parce qu'on n'a pas des textes explicites venant des Égyptiens sur toutes les étapes de la momification. Donc on essaye de refaire le processus pour voir si effectivement on arrive à retrouver toutes les méthodes.
Gérard de Nerval écrivait « J'ai toujours regardé comme impie la mise à nu et la dissection des momies de ces pauvres Égyptiens. » Et Dieu sait si on en a disséqué.
Oui,
notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un problème moral derrière tout ça, éthique ?
Évidemment. C'est toute l'éthique du cadavre. La médecine se donne le droit d'autopsier les gens. Quand j'ai été étudiant à la Salpêtrière, ça se faisait encore. C'est-à-dire que tous les matins, on avait 3 ou 4 cadavres à autopsier. Ça se faisait de façon systématique. C'est ce qu'on appelle la méthode anatomoclinique qui a fait progresser la médecine depuis des siècles et qui consiste à étudier un malade de son vivant, consigner ses observations, et puis, une fois le décès survenu, l'ouvrir, ça s'appelle ouvrir un corps, et voir les lésions organiques et les comparer avec ce qu'on avait observé de son vivant. Donc ça, c'est en quelque sorte un don à l'humanité de pouvoir faire progresser les connaissances, mais bien sûr, puisqu'il s'agit d'une personne et qu'on coupe cette personne en morceaux, ça pose des problèmes éthiques de respect, de dignité, puisque c'est une violence qu'on fait au cadavre.
Alors, vraiment, le Musée de l'Homme possède de nombreuses momies. Bien sûr, on évoquait les fameuses têtes maories desséchées. Quelle est la politique du musée autour de ces momies ?
Déjà, on en montre peu. Si vous allez au Musée de l'Homme, vous n'en verrez que 2, dont l'une est un petit enfant égyptien dans ses bandelettes d'origine. Donc, il est intact. Vous ne le voyez pas. Vous ne voyez que l'extérieur. Et puis, une momie précolombienne qui, elle, est nue et qui est en position fœtale. Mais nous avons une 100aine de momies dans les réserves que nous étudions du mieux que nous pouvons. Nous les gardons aussi pour les générations futures en attendant de meilleures techniques. Donc, beaucoup ont été scannés, beaucoup ont eu des prélèvements. Et donc, en matière de conservation, nous appliquons les lois de la bioéthique qui sont donc respect et dignité autour du cadavre.
Alain Froment, merci beaucoup. À découvrir donc dans la revue Archéologia de ce mois-ci, votre dossier autour des momies, bien sûr. Et puis, votre dernier livre, Archéologie de la santé, anthropologie du soin, sous votre direction et celle d'Hervé Guy, de l'INRAP, qui vient donc d'être publié aux éditions La Découverte. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Célia Dufour et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr.